Voilà, à mon tour, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne demi-partie, deuxième partie de nos journées d'études. Et je suis très heureux d'accueillir ce matin le frère Samuel Rouvillois, qui est prêtre de la congrégation Saint-Jean. C'est un enseignant, il enseigne notamment l'ecclésiologie à ses frères, ainsi que la philosophie. Le frère Samuel a fait une thèse de philosophie sur la philosophie de la liturgie, le corps et l'esprit. Et depuis 10 ans, il enseigne la philosophie de la communication. Donc vous voyez, il est particulièrement bien placé pour nous parler ce matin. Il m'a dit qu'il avait déjà écrit 2 articles sur les questions relatives à l'Internet et que la conférence de ce matin sera la base d'un 3e article, et donc il y aura la possibilité de le lire. Pour nous qui sommes dans le diocèse, eh bien, le frère Samuel nous a rejoints depuis une année maintenant, enfin quelques mois, disons. Il est en Avignon, à la paroisse de Saint-Ruf, et il est chargé de la pastorale de la culture. Et en Avignon, c'est une charge importante avec notamment la présence chrétienne pendant le temps du festival. Je ne vais pas prolonger les présentations. Je vais maintenant lui laisser la parole en le remerciant déjà.
Merci beaucoup. D'abord, évidemment, vous dire ma joie parce que je trépigne depuis le mois de juillet de venir voir notre âme de vie. Mon prieur vient régulièrement suivre des cours, mais jusque-là, il ne m'avait pas permis de venir jusque-là. Ça y est, maintenant c'est fait. Alors après une présentation d'Internet, après une ouverture aux défis et aux opportunités pour l'évangélisation de cet outil, après une analyse sur les enjeux anthropologiques, aujourd'hui on va se pencher sur l'usage, qui est un peu la question, pas la question dernière, mais la question concrète, c'est-à-dire, et Internet pratiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça ? D'autant plus qu'on vous l'a souligné, il y a une rupture générationnelle entre ceux qui sont nés dedans et donc qui savent s'en servir mais ils ne savent pas si l'usage qu'ils en font est bon, et ceux qui ne savent pas s'en servir mais qui ont des idées surtout sur les mauvais usages qu'on pourrait en faire. Alors on pourrait faire ça de deux manières, d'une part faire des recommandations, en gros qu'est-ce qu'il faut éviter de manière majoritaire, quels sont les risques, les bons et les mauvais usages. Je ne vais pas le faire d'abord parce que je pense que ce n'est pas la bonne manière d'aborder cette question de l'usage, et puis parce que l'Église est au début là-dessus de sa réflexion. Je ne vais pas vous faire un topo théologique, mais c'est intéressant de voir que l'Église est partie sur le sujet du net de manière très optimiste. L'Église traditionnellement est plutôt prudente, réservée, pas prudente, mais réservée. Quand on voit apparaître de nouveaux outils, là, elle a accueilli d'emblée très très favorablement, déjà avec Jean-Paul II et avec Benoît XVI, l'existence d'Internet. Et pour l'instant, j'allais dire, elle nous renvoie à sa doctrine, qui n'est pas très vieille, donc elle n'est pas encore tout à fait classique, mais à tout ce qui s'est fait depuis maintenant 50 ans sur les outils sociaux de communication, ou les outils de communication sociale, appelez-le comme vous voulez. Donc là, on a tout un nombre de textes qui ont commencé un peu avant le Concile, avec l'apparition de la radio, avec l'apparition de la télévision. Et aujourd'hui, l'Église n'a pas encore produit de textes magistériels ou émanant de Rome qui puissent nous dire, au fond, qu'est-ce que ces nouveaux outils impliquent comme déontologie, précaution, nouvelle. On est sur la base des outils de communication sociale. Et il y a déjà toute une doctrine. Mais mon propos ne va pas être tellement de le développer parce que je vais me situer plutôt comme philosophe. Et ce que je vais vous proposer, c'est ce qu'on pourrait appeler un programme d'apprentissage. Donc je ne vais pas vous dire comment bien s'en servir, je vais plutôt vous dire par quoi il faut qu'on passe si un jour on veut s'en servir correctement, ce qui est évidemment pas demain la veille, vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire que le programme d'apprentissage est énorme, il est malheureusement incontournable, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on ne peut pas faire l'impasse sur grand-chose des éléments que je vais énoncer là, et je vais essayer de vous montrer que c'est à peu près aussi compliqué de se servir correctement d'Internet que de se servir d'une centrale nucléaire. Et vous allez voir très précisément pourquoi ça n'est pas simplement une métaphore, mais la raison propre pour laquelle il s'agit en fait du même niveau de qualité et du même niveau de dangerosité de l'outil dont on se sert. Alors l'usage, je le distinguerai en 3 choses. Dans l'usage, il y a l'outil, bien sûr, il y a l'utilisateur, et puis il y a le résultat. Donc on va travailler d'abord sur l'outil, parce que se servir d'un outil, c'est d'abord comprendre quel est cet outil, et on va voir que c'est la première fois sans doute dans l'histoire des hommes qu'on se sert d'un outil avant de comprendre ce qu'il est, voilà, et qu'on s'en sert bien sans rien comprendre d'ailleurs à ce qu'il est, vous allez le voir, même les techniciens. Deuxièmement, il y a le résultat, parce que si on se sert d'un outil, c'est pour obtenir un résultat, et le propre de cet outil, c'est qu'il permet d'obtenir des résultats qui sont dans des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Quand vous vous servez d'un tournevis, vous pouvez visser une vis, vous pouvez menacer quelqu'un de le tuer, vous pouvez vous en servir pour planter quelque chose, mais en gros, il n'y a pas 25 000 usages du tournevis. Vous pouvez en inventer, mais il n'a pas été fait pour beaucoup d'autres choses que pour visser. Les autres sont des usages détournés. Le problème d'Internet, c'est qu'il a été fait pour des usages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui sont tous légitimes. Aussi bien assister à une opération chirurgicale à l'autre bout du monde que d'envoyer de la propagande fasciste sur l'ensemble de la planète par un clic à des centaines de millions d'exemplaires. Il a été conçu aussi bien pour l'un que pour l'autre, c'est-à-dire pour communiquer que pour assister à distance. Et puis, évidemment, on regardera quand même le sujet, c'est-à-dire nous, l'utilisateur. Parce qu'à la fin, celui qui doit porter la compréhension de l'outil et l'appropriation entre l'outil et le résultat, c'est quand même l'utilisateur, c'est-à-dire nous. Et donc, le premier boulot de l'utilisateur, c'est de comprendre l'outil et de comprendre quel est le lien entre l'outil et le résultat. Alors, l'outil, je ne vais pas vous faire une conférence là sur l'ordinateur. Simplement rappeler deux, trois éléments. L'ordinateur, c'est une machine électrique qui fonctionne essentiellement par passage de courant, non passage de courant, c'est tout, avec des milliers, des centaines de milliers, voire des milliards de connexions possibles, grâce à de la micro-industrie sur ces petites puces. Au début, l'ordinateur a été une machine à compter et à calculer. Et puis, elle est devenue progressivement une machine à gérer. Et c'est ça qui est intéressant. Elle est une machine à gérer tout ce qui est rationalisable, absolument tout ce qui est rationalisable. Pas tout ce qui est intelligent, hein, parce qu'on verra que ce qui est intelligent n'est pas nécessairement rationalisable, mais tout ce qui est rationalisable est gérable par l'outil qu'est l'ordinateur, pas simplement parce que c'est une machine à compter, à calculer, mais parce qu'on a associé à ce calcul et à ce comptage la logique informatique. Alors, je ne vais pas développer ici ce qu'est l'informatique. L'informatique, c'est à la fois une manière de gérer l'information, et puis a été associé à l'informatique aussi ce qu'on pourrait appeler un codage général, des signes et des objets. Vous savez qu'on peut tout coder. On code des lettres, on code des chiffres. D'ailleurs, basiquement, on ne code que des lettres et des chiffres, mais à partir des chiffres et des chiffres et des lettres, on peut coder tout ce qui est numérisable et tout ce qui est écrivable, tout ce qui est transcrivable par mots. D'accord ? Donc tout ce qui est transcrivable par mot et par chiffre, par lettre, par mot et par chiffre, est désormais codable informatiquement. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est très simple. Aucun homme sur la Terre n'est capable de vous expliquer ce qu'il y a dans votre téléphone portable. Absolument personne. Parce que ça fait très longtemps que on a quitté la compréhension élémentaire de ce que c'est que l'informatique. Hein. Le degré, le nombre le nombre de programmes et la sophistication d'un téléphone portable est telle que aujourd'hui vous ne trouvez aucun informaticien capable de vous décrire exactement ce qu'il y a dedans. D'accord ? Ça veut dire aussi qu'aucun informaticien n'est capable de vous expliquer comment fonctionne l'informatisation du système comptable de notre âme de vie. Absolument personne. Voilà. C'est intéressant, c'est-à-dire que nous avons inventé un outil dont nous n'avons plus la compréhension directe. Un tournevis, vous voyez bien comment c'est fait, vous pouvez le regarder attentivement, il n'y a pas de secret là-dedans. Le troisième élément, c'est que cet outil est intrinsèquement non fiable. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont des raisons liées à la logique algorithmique, il est non fiable, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire fonctionner l'ensemble du système informatique de manière parfaitement sécurisée. Hein, il y a, je crois, aujourd'hui on arrive à ce qui est un fonctionnement en gros sur 1000 qui fonctionne pas, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'aléatoire dans le fonctionnement de cet outil. Ça aussi, c'est tout à fait à la différence d'un outil industriel. J'ai visité une fois une usine où on fabrique les moteurs de production d'électricité secondaire pour le futur Boeing 777. C'est des moteurs qui coûtent à peu près le prix de 2 ou 3 Rolls-Royce par moteur et qui sont grands comme ça. C'est pas très grand. Et ça doit pouvoir fonctionner à moins 40 degrés en dessous de zéro et ça doit pouvoir fonctionner quasiment 30 ans sans panne. Voilà, tout simplement. Pour vous donner le niveau d'infaillibilité, entre guillemets, hein, d'un moteur, et le degré de faillibilité. Vous savez, c'était un gag de General Motors qui disait « Si je fabriquais mes voitures comme on fabrique des ordinateurs, pour pouvoir démarrer la voiture, il faudrait commencer par ouvrir la boîte à gants, sortir les cartes, les jeter par la fenêtre, débrancher l'antenne centrale, reculer son siège, taper sur le volant, et là, on aurait une chance de démarrer. » Ce en quoi je me souviens plus que c'était Bill Gates ou Steve Jobs lui a répondu, mais c'était tout aussi, en disant que c'était bien, mais que c'était à la lumière d'une technologie moyenâgeuse qu'il faisait des commentaires sur la technologie contemporaine. Voilà, donc c'est simplement pour dire que cet outil n'est plus simplement une machine, parce qu'une machine, un moteur à explosion, c'est pas toujours facile à comprendre, mais enfin, on y arrive à peu près. La thermodynamique, c'est compliqué déjà. Un micro-ondes, la plupart d'entre nous n'est même pas capable de comprendre exactement ce qui se passe dans un micro-ondes. On vous raconte que c'est ce qui se passe, mais vous y comprenez rien. Quant à un ordinateur, je vous dis, même les techniciens ne sont pas capables de vous décrire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas en gros ce qu'est l'informatique, mais ils ont depuis longtemps complètement décollé dans la programmation et même dans la conception, ce qu'on appelle à faux d'ailleurs, à mon avis, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la tentative de transformer en logique algorithmique toute forme de raisonnement. Toute forme de aussi bien de raisonnement pour créer quelque chose, que de raisonnement pour gérer quelque chose, que de raisonnement pour communiquer. Vous remarquerez que c'est impressionnant. Vous ouvrez votre ordinateur, il est capable de vous poser des questions et vous répondez et il re-répond à vos questions. Enfin, il a l'air d'être intelligent. Alors que ça n'est qu'une machine faite avec pas mal de sel et quelques produits secondaires et qui juste sait faire passer le courant et pas passer le courant. Voilà, donc ça c'est cet outil. Il a quand même comme caractéristique, je vous le disais, d'être un outil de gestion généralisée de tous les processus rationnels. Et ça, c'est évidemment absolument fascinant parce que ça veut dire que c'est un assistant cérébral devenu permanent. Pour être plus précis, c'est devenu, chez la plupart des gens qui s'en servent plus d'une heure par jour, en fait une prothèse cérébrale intégrée. Je suis très sérieux, vous ne pouvez plus penser à un certain nombre d'activités sans cet outil. Ça vous aide, la plupart de ceux qui sont nés dedans, ça les aide à réfléchir. D'accord ? Ça fait partie, c'est pas une prothèse, c'est pas un outil externe, il est physiquement externe, mais il est intentionnellement interne. Hein ? L'écran, il n'est pas là, l'écran, il est là. Vous réfléchissez entre l'écran à l'intérieur de vous-même et vous-même. Vous ne réfléchissez pas. Alors, les vieux dinosaures de plus de 45 ans qui sont encore pas capables de franchir l'écran, vous voyez, se contentent de servir d'un écran comme quelque chose qui recrache des informations mises dans la boîte. D'accord, mais ça, c'est ceux qui ne savent pas servir d'Internet. D'accord ? La plupart d'entre nous, ou d'entre vous, vous vous servez d'Internet, encore une fois, comme quelque chose qui est interne à vous, comme une possibilité interne d'action, comme un support interne de réflexion. Et même, on le verra de plus en plus comme une manière de vous aider à vous situer dans le monde. Hein ? Ça pose de moins en moins de problèmes aux gens de déléguer leur repérage spatio-temporel à un GPS. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas comment aller là où ils vont, même si on espère qu'ils savent où ils vont. Et ils ont délégué leur repérage spatio-temporel à un outil. C'est très impressionnant comme délégation. Moi, jusqu'à là, je faisais ça avec l'Esprit Saint. Je refuse catégoriquement de le faire à l'égard d'une voix aussi sympathique soit-elle. Voilà. L'arrière-fond aussi. Cet outil n'a pas été inventé n'importe comment. Donc, vous voyez bien un problème d'usage, c'est-à-dire que je me sers d'un outil dont je n'ai pas la compréhension directe, dont je perçois par contre très vaguement l'ensemble du champ d'application, qui ne cesse de se développer de jour en jour, puisqu'encore une fois, potentiellement, il peut s'appliquer à tout processus rationalisable. Et l'ensemble des activités rationnelles de notre vie, c'est beaucoup. Et l'ensemble des processus matériels que nous gérons qui sont rationalisables, c'est aussi énorme. Alors ça, c'est un avantage énorme, c'est que nous pouvons déléguer à cet outil tout ça. Mais avons-nous raison de le lui déléguer ? Je vous prenais l'exemple du GPS. Jusqu'où déléguez-vous ? Et puis à partir de quand la délégation est choisie comme non réversible ? C'est-à-dire que j'abandonne définitivement la capacité de me repérer par moi-même sur une carte. Ça s'appelle la perte d'apprentissage. Enfin, vous voyez, c'est les moments où je ne serai plus capable d'apprendre. Il y a des savoir-faire qu'on peut perdre. Ben, on pourrait perdre le savoir-faire qui consiste à lire une carte. Le deuxième élément, c'est que cet outil n'est pas né dans n'importe quel contexte. Je ne vais pas m'attarder à ça. mais c'est peut-être important de savoir que cet ordinateur, ce n'est pas simplement un outil pratique, il est porteur d'un projet d'existence. Ce qu'avait parfaitement compris Steve Jobs quand il a écrit un livre sur Apple, c'est un livre qui s'appelle « De Apple à Pepsi », où il explique très bien comment est-ce que la naissance de l'ordinateur portable et l'avènement d'une nouvelle alliance entre l'homme et la création par l'accès à un nouveau type de connaissance, ça devrait vous dire quelque chose, hein, parce que donc l'acquisition d'un produit de consommation, c'est pour ça que c'est une pomme croquée avec un arc-en-ciel dedans, c'est un outil de consommation qui doit renouveler le rapport de l'homme à l'univers par l'accès à un nouveau type de connaissance. C'est très clair, c'était très clairement ça. Et donc, pour lui, l'ordinateur domestique, c'était l'étape de l'entrée dans un nouveau mode d'existence, qui est une, on va le voir, en partie une libération à l'égard de la spatio-temporalité. Et l'accès, on va le voir, à la possibilité de projeter, de déléguer à la machine tout ce qui est encore une fois la pénibilité de la gestion rationnelle du monde, après avoir délégué à la machine industrielle la fatigue physique. Là, on délègue normalement à l'ordinateur la fatigue psychique, même si bizarrement, il nous fatigue aussi beaucoup. Enfin, on est fatigué de comprendre pourquoi. C'est important de savoir ce qui nous fatigue parce qu'on est la dernière génération qui n'est pas bien accoutumée à ça, vous voyez, ou bien ce qui nous fatigue parce qu'intrinsèquement, il nous mange notre âme. C'est important de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer là. Pourquoi c'est pénible? Quels sont les avantages et les inconvénients d'aujourd'hui, mais quels sont les avantages et les inconvénients de demain? Alors, c'est pas simplement... Et derrière les propos de Steve Jobs, il y a évidemment toute la vision qui constitue, on va dire, le projet d'existence du monde contemporain, qui est un projet qui date en partie des Lumières, qui est, à mon avis, personnellement, antérieur aux Lumières, qui a commencé le jour où l'Église a pensé qu'elle allait installer le royaume par elle-même sur la Terre. Enfin, pas l'Église dans son mystère, mais l'Église dans ses hommes, en réaméliorant le projet romain, et qui n'a rien à voir avec le projet évangélique. Parce que le projet évangélique, ce n'est pas d'installer le royaume sur la Terre, c'est de préparer la Terre au royaume du ciel, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et de l'anticiper dès la Terre. Mais c'est vrai qu'on voit bien que les Lumières ont comme horizon une anthropologie alternative à l'anthropologie biblique, qui consiste à installer par les moyens de la science du désir, parce qu'il ne faut jamais oublier que les gens des Lumières sont aussi des libertins, pas tous, pas Kant, mais les Lumières françaises sont assez, sont pas libertines au sens simplement sympathique du terme, ça fait partie de leur projet, la libération du désir. Et il y a derrière déjà dans le projet des Lumières la gestion rationnelle du monde, hein, pour pouvoir y instaurer un royaume de bonheur et d'humanité sans l'aide de la religion, et encore moins de Jésus-Christ. Alors, pour être beaucoup plus pragmatique, je dirais que l'ordinateur s'est développé dans le contexte de la fabrication d'un monde qui a trois vecteurs, ça c'est des rappels, hein, mais qui a trois vecteurs sous-jacents à sa structuration. Un, le progrès, et le progrès s'appuyant sur la science et la technologie, c'est-à-dire s'appuyer sur le pouvoir technologique lié à la connaissance scientifique pour changer progressivement la face du monde. L'ordinateur s'inscrit là-dedans. C'est un outil messianique, si vous comprenez bien. Enfin, vous voyez, c'est un outil c'est la fine pointe de la science et de la technologie permettant de changer réellement le monde pour qu'advienne enfin ce monde meilleur. Il est porteur d'espérance, pas au sens théologal, hein, mais il est porteur d'un projet. Deuxièmement, cet outil s'est inscrit progressivement, l'ordinateur, et Internet en est le fruit, simultanément dans un monde de généralisation de l'économie et de généralisation de la consommation comme accélérateur principal de l'économie. Et donc l'ordinateur est devenu pas simplement un outil de gestion économique, ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y a plus de bourse physique, enfin, l'achat et la vente se fait par programme et par ordinateur. Ce qui a eu d'ailleurs comme effet d'accélérer l'économie, hein, puisque quand vous avez un outil qui travaille à la vitesse quasiment de la lumière, évidemment ça accélère par rapport à vos lentes capacités de réflexion à vous, quand il s'agit des calculs économiques. Et donc évidemment, l'ordinateur a accéléré l'économie, et évidemment il y a un domaine dans lequel il a considérablement accéléré les choses, c'est la finance. Parce que la finance, c'est beaucoup de calculs, et beaucoup de prévisions calculées. Et donc l'assistance à la finance par l'usage de l'ordinateur puis d'Internet a considérablement changé le visage de la finance. Et donc le visage de l'économie mondiale et le rythme auquel l'économie mondiale avance. Donc l'ordinateur s'est inscrit très vite là-dedans. Hein. Aujourd'hui, c'est l'outil de gestion de l'ensemble des process économiques à l'échelle mondiale. Hein. ne pouvez pas vous coordonner d'un site à l'autre. Enfin, vous ne pouvez plus rien faire dans le monde économique, artisanal si, mais économique sérieux non, sans l'usage de l'informatique et sans Internet. Et donc, il est clairement l'outil de la mondialisation économique. Faut être clair, c'est l'outil central de la mondialisation économique. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas simplement un outil de gestion des process économiques, c'est aussi un outil de consommation et d'accélération de la consommation. C'est lui-même un objet de consommation, c'est pour ça qu'il est convivial, c'est qu'il faut qu'il satisfasse le désir, pas simplement d'ailleurs dans la machine, ce qu'a très bien compris Apple, mais évidemment d'abord dans sa visualité, dans sa réactivité, enfin, il y a un critère de satisfaction extrêmement important. La consommation, vous le comprenez bien, est la manière de se servir de votre désir sans vous demander votre avis pour accélérer les processus de production économique à l'échelle mondiale sous prétexte de vous rendre des services dont la moitié d'ailleurs ne sont pas des services, c'est plutôt des encombrements. Et donc concrètement, ça veut dire que derrière le projet de généralisation mondialisée de l'économie basée sur la consommation, il y a comme levier l'attachement à l'objet et à l'image. Donc l'ordinateur est un accélérateur de l'attachement à l'objet et à l'image. Il est clair que, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début, ce n'est pas d'abord un accélérateur de la connaissance et de l'échange scientifique. Je parle de statistiquement là. C'est d'abord un pourvoyeur d'images et derrière les images, un pourvoyeur d'attachement affectif aux objets en vue de la consommation, il faut être clair, quoi. Autrement dit, c'est devenu une arme économique centrale. Donc ce n'est pas simplement une machine à calculer. Troisièmement, c'est troisième dimension de ce programme. Un, le progrès scientifique et technologique. Deux, l'économie fondée sur la consommation. Trois, la communication et l'information. Là aussi, ça faisait partie du projet des Lumières. Ça s'appelle la liberté d'échanger de conscience, c'est-à-dire au fond, la possibilité d'avoir un espace, non pas de débat, parce que pour qu'il y ait des débats, il faut que les gens se parlent et qu'ils soient capables de s'écouter dans les contradictions qui s'opposent les unes aux autres. Hein. C'est très rigoureux, les lois du débat. Mais on va dire... c'est très bizarre, c'est pas une agora. Sur une agora, il y a quand même des lois de la parole qui s'instaurent. Là, on peut parler tout seul sans que personne vous... Alors c'est un peu comme les corner speakers, ça je suis assez d'accord. On peut parler tout seul sans que personne vous écoute. On peut chercher à créer un club des gens qui sont tous contre la coiffure de Madame Alliot-Marie ou alors qui sont pour une autre marque de dentifrice pour Monsieur Sarkozy. Enfin, on peut créer un blog sur n'importe quoi, hein. Le blog des gens qui n'aiment pas les chiens, le blog de ceux qui, parmi les chiens, préfèrent les uns sur les autres. On peut créer un groupe de n'importe quoi. Et donc, c'est très bizarre qu'il y a une espèce de, quand même, ce qu'on appelle, au sens technique du thème, une anarchie langagière, une anarchie de la communication, parce qu'il n'y a pas de principe. Il n'y a même pas le principe de l'efficacité dans l'ordre de la consommation, puisqu'on peut laisser... Vous avez quantité de choses qui restent sur Internet qui ne servent plus à rien. Je ne sais pas si on est capable d'évaluer le taux de déchets, c'est-à-dire de pages non lues, et au bout de combien de temps est-ce que... Alors, je présume que les pourvoyeurs se débrouillent pour les supprimer quand elles n'ont jamais été lues pendant... Je ne sais pas quel est le nombre d'années ou le nombre de mois. Mais c'est très étonnant de retrouver des pages qui, des fois, vous concernent, qui ont 15 ans d'âge... qui n'ont plus aucun intérêt. Donc ce n'est pas un archivage systématique non plus. C'est une espèce d'endroit où il y a beaucoup d'épaves de communication qui flottent. Et donc cet outil pour promouvoir la liberté d'échange systématique d'informations et la liberté de communication instantanée et planétaire. Avec aussi de la créativité dans l'ordre de la communication et de l'information. On est passé de la phase où on consommait de la communication et de l'information et on est dans la phase où on crée. Une créativité dont on peut dire que quand même la dominante est assez narcissique. C'est pas tellement... Il y a la créativité utile, mais il y a beaucoup de créativité dans les blogs, si vous voulez. Le nombre de gens qui discutent objectivement et rationnellement, rigoureusement d'un objet qui va faire avancer les choses... ou qui échangent en profondeur, est évidemment, vous en doutez, moins élevé que ceux qui se contentent de vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait hier, avant-hier, leurs dernières vacances. Voilà, donc la grande question, elle est, cet outil, vous voyez bien sa complexité, c'est-à-dire à la fois son hyper-utilité, sans utilité spécifique. qui n'a pas d'usage propre. Je vous dis, un tournevis, ça sert à visser. Vous pouvez vous en servir à autre chose, mais ça sert d'abord à ça. Un ordinateur, ça ne sert plus à rien d'abord. Ça sert à tout. Ce qui peut, encore une fois, m'aider à réfléchir ou à agir, pour autant que, encore une fois, ça soit transformable en logique minimum, quoi. C'est un minimum de logique. Donc ça, c'est du côté de l'outil. Ensuite, du coup, du côté des usages, des résultats. Le critère du bon usage d'un outil, c'est son efficacité. Et il faut voir que les champs d'efficacité de l'ordinateur sont à différencier. Alors, j'en distinguerai trois. Le premier, c'est le champ de la connaissance, pour utiliser un mot très à la mode. Comprenez bien que l'ordinateur n'a rien à voir directement avec la connaissance. Il a à voir avec l'information et la communication, ce qui n'est pas la même chose. Tout le monde sait qu'on peut communiquer sans avoir rien à dire, donc sans qu'il ne se comprenne rien, que des choses tout à fait superficielles. Vous pouvez bavarder, avoir des propos de concierge qui commentent l'actualité. Il n'y a rien à comprendre, si vous voulez. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est juste de l'émotion avec des mots derrière, quoi. L'information, y compris l'information sur les choses les plus importantes scientifiquement, philosophiquement, spirituellement, sont inutilisables si je ne sais pas quoi en faire. D'accord ? Si vous ne savez pas lire la langue, c'est inaccessible. Si vous ne comprenez pas le mode de raisonnement de ce que vous lisez, c'est inaccessible. Si vous ne savez pas où se situe ce que vous lisez dans l'ensemble des informations possibles, c'est inutilisable aussi. Et donc, la grande difficulté est de savoir comment cet outil est une aide à la compréhension, pour être très précis. Parce que le mot connaissance est un mot flou, le mot compréhension est plus précis. Or, aujourd'hui, Internet n'est pas encore suffisamment... Enfin, est-ce qu'il y arrivera ? C'est très particulier, parce que c'est un monde en évolution permanente. On n'a pas de moyens d'évaluer rigoureusement la valeur de l'information que l'on lit ou que l'on entend ou que l'on voit. Autrement dit, il n'y a pas, vous le savez bien dans Internet, de communauté d'experts. L'exemple de Wikipédia est significatif. Donc, on n'a pas de... Enfin, quand il y a de la rigueur... dans Internet, quant à la connaissance, c'est du texte écrit. D'accord ? Parce qu'à la fin, c'est très étonnant, ce qui sanctionne la valeur réelle d'un accès à la connaissance, c'est l'écrit. Si vous n'êtes pas capable de produire par écrit ce que vous êtes en train de dire, d'émettre sous forme d'image ou sous forme intuitive, il n'y a aucune possibilité d'évaluer la rigueur de ce que vous dites. C'est très étonnant, ça. L'invention de l'écriture, c'est la naissance de la philosophie et évidemment de la parole de Dieu. Il n'y a pas de parole de Dieu tant qu'il n'y a pas d'écriture au sens fort. Et de la théologie. C'est très impressionnant, ça. Et donc, à la fin, Internet, jusque-là, est capable d'apporter des éléments de connaissance intuitive superficielle, mais on ne voit pas en quoi cet outil est accru, un tant soit peu, la possibilité d'accéder à une connaissance en profondeur des choses. D'accord ? Elle accélère l'échange des informations écrites, hein, dans les communautés scientifiques notamment. Elle crée une convivialité qui fait qu'on lâche plus facilement sa connaissance, on est moins propriétaire, donc ça crée une espèce de bien que. On est en train de réintroduire quand même la dimension de vente et d'achat. Enfin, on va revoir, étant donné les enjeux financiers, voir réapparaître des barrières. Donc sans doute que la connaissance se monnaiera demain, y compris peut-être entre scientifiques, hein, parce que les scientifiques qui aujourd'hui s'échangent librement les informations sont des gens qui sont dans un modèle de liberté gratuite en considérant que c'est bénéfique pour tout le monde. Mais il y aura sans doute un contre-coup qui fait qu'on envisagera de vendre. On vous vend déjà des devoirs, hein, tout fait, pour pouvoir, si vous avez un problème à rédiger un devoir à notre âme de vie, vous allez chercher sur Internet, il y a peut-être quelqu'un qui a mis en ligne moyennant finance exactement le sujet que vous voulez traiter. Et donc concrètement, on ne voit pas en quoi, encore une fois, à part une connaissance intuitive ou symbolique, mais j'ajoute superficielle et j'y reviendrai tout à l'heure. Autrement dit, l'Internet ne me donne pas les moyens de distinguer le vrai du vraisemblable. Voilà. Alors vous me direz, mais c'est déjà le cas de l'écrit. Oui, c'est vrai, parce qu'on peut inventer une philosophie fausse et vraisemblable. Et l'histoire de la philosophie ne s'est pas gênée pour en produire. Mais malgré tout, comment vous dire ça, l'incohérence d'une pensée, elle apparaît sur 40 pages. L'incohérence absolue d'un clip n'apparaît absolument pas. Parce que de toute façon, vu le nombre d'images par lesquelles vous êtes bombardé, de sons par lesquels vous êtes bombardé, vous n'êtes même pas capable de savoir ce que vous avez vu. Mais vous avez été fasciné, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en reste? De quoi s'agit-il? Quel est le contenu? Peut-on arriver à un état de connaissance où il n'y a plus de contenu? Où tout est purement intuitif? Ou est-ce qu'une connaissance purement intuitive, c'est tout simplement la perte de la connaissance? C'est-à-dire, c'est le retour à un état pré-symbolique. Pour autant qu'il y ait un état pré-symbolique naturellement chez l'homme. Donc là, c'est une vraie question. Hein. Internet est en train de développer un espèce de sentiment de connaissance sans contenu. Ouais, ça, c'est une vraie question. On a le sentiment de savoir, on a le sentiment d'avoir compris, on a le sentiment de connaître, et dès qu'on pose un peu une question un tout petit peu sérieuse à la personne, on voit qu'il n'y a rien. Rien. Oui, il y a une vraisemblance, mais une vraisemblance superficielle qui peut être très séduisante d'ailleurs, hein, qui sous forme de zapping ou de mots-clés peut avoir l'air de... Un peu comme l'info d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Vous vous doutez bien que l'information... la plupart du temps, ne donne absolument pas accès à la réalité. Elle donne accès à l'émotion collective que l'on a à l'égard des images d'un événement. Donc, c'est assez loin. Hein. On vous donne l'exemple du mot Laetitia. Voilà, tout de suite, quelqu'un, tout le monde est ému. Mais que savons-nous personnellement là-dessus? Rien. Au sens personnel, hein. Nous avons le sentiment collectif d'avoir un certain nombre de choses objectives là-dessus. Rien. Comment vous voulez que ça soit, savoir si c'est objectif? La seule chose qui est objectif, c'est ou l'expérience, ou le témoignage de quelqu'un que vous connaissez qui est parfaitement fiable, ou un raisonnement qui est rigoureux. Il n'y a que trois types d'objectivité. D'accord? Ou l'expérience, ou la transmission de quelque chose par quelqu'un dont vous savez qu'il est parfaitement fiable. J'espère que vous savez que la plupart des informations sur Internet ou même dans les médias ne sont pas fiables. D'accord? Parce que vous ne connaissez pas personnellement les journalistes, enfin, sauf si des gens que vous avez rencontrés se mettent à écrire des articles. Et troisièmement, bah, le raisonnement, hein, c'est-à-dire la démonstration au sens rationnel du terme. Et donc la grande question dans l'usage, c'est d'apprendre à distinguer le vrai du vraisemblable. Voilà. Donc là, il y a on verra tout à l'heure, un apprentissage ou un réapprentissage que, alors de manière heureuse, Internet nous oblige à pratiquer. Le deuxième champ d'efficacité... Alors, par ailleurs, vous comprenez bien, si je ne peux pas discerner le vrai du vraisemblable, par contre, effectivement, l'accès à des informations superficielles qui sont quand même très très utiles dans l'existence quotidienne. Vous n'avez pas besoin de savoir quand a été créée la SNCF, par qui est-elle dirigée, quelle est sa rentabilité financière pour acheter un billet. D'accord. Vous n'avez rien besoin de savoir pour acheter un billet, à part son prix, d'où vous allez, d'où vous partez, où vous allez, c'est tout. Donc, pour ça, c'est super pratique. Et la convivialité consiste précisément à se contenter du strict nécessaire. Donc ça vous économise l'adaptation à écouter la personne qui vous parle au guichet, de devoir lui dire bonjour, enfin plein de choses inutiles comme tout le monde sait. Mais c'est aussi sympathique parce que vous n'avez pas le sentiment d'agresser l'autre parce qu'il est derrière une vitre avec un micro pour pas que vous le crachiez dessus. Donc on comprend que c'est plus pratique. Vous avez le télépéage, ça évite d'injurier les dames au péage. Une des raisons majeures de l'invention du télépéage, c'est pas que ça soit plus pratique, c'est parce que les gens qui pratiquaient le péage étaient des gens souvent en état de déprime, souvent, surtout les femmes, parce que le degré de grossièreté et d'agression des usagers était tel qu'il y avait de moins en moins de gens capables de survivre à ce genre de métier. Et donc, j'allais dire, il y a une espèce de facilitation de l'information et de la connaissance superficielle, mais pour quelqu'un qui a travaillé dans une bibliothèque et qui connaît un sujet scientifique... ou un sujet philosophique ou sociologique un peu à fond, c'est très bien que Internet, ça sert pour retrouver une citation biblique, ça c'est sûr, ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher dans votre Bible à la main. C'est clair. Deuxième champ d'efficacité, c'est la communication, l'échange, la rencontre. Alors, là encore, partage tous ces mots-là. Qu'en est-il ? Est-ce vraiment efficace ? Pour communiquer, sûrement. Pour échanger, c'est déjà autre chose, parce qu'on peut communiquer sans échanger. Normalement, il y a des seuils dans le contenu de communication. Hein. Quand vous criez à quelqu'un « ouvre », voilà, le contenu est assez faible. Et vous pouvez tout à fait, par Internet, comme avec un téléphone portable, dire à quelqu'un « ouvre la porte ». Ça, il n'y a pas de problème, ça communique bien. C'est super pratique. L'interphone est pratique. Et tout ce qui est d'ailleurs Internet, l'Internet comme interphone fonctionne bien. Et là, ça fonctionne même super bien. Je dirais, une des fonctions principales de la communication d'Internet, c'est d'être interphone. Ensuite, quand il s'agit de l'échange, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur l'invention du mail, par exemple, qui n'est ni écriture, ni parole, ni même lettre tapée à la main, qui est un peu de tout ça. Et qui a bizarrement, qui génère un rapport affectif, parce que c'est produit sur écran, et c'est produit sur écran à haute vitesse, sans avoir besoin de faire des phrases françaises, sans avoir besoin de mettre en page, et sans avoir besoin de prendre les précautions d'entrer en discussion avec autrui. Fait que c'est un usage que permet Internet qui est très particulier, qui n'est pas un mélange entre, qui est autre chose que la lettre, qui est autre chose que la communication même téléphonique, qui s'approche évidemment du SMS, et qui a généré ce genre de choses comme Twitter. À part quelqu'un qui a une haute vie de méditation spirituelle, peut-on en une phrase produire du sens ? Oui, quand on s'appelle le rédacteur du livre des Proverbes, quand on a un génie de l'aphorisme, peut-on produire du sens en une phrase ? Twitter, c'est une phrase, hein, pas plus. Comme dit son nom, d'ailleurs, ça tweet. C'est du piaillement, c'est pas de la basse-cour, mais... Et donc, là, il y a une vraie question. Hein. Alors ensuite, vous avez échange de connaissances, et puis vous avez rencontre. Peut-on parler de rencontre ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'équivocité du langage ? Et de partage. Alors, on partage des informations, on peut partager de l'émotion, mais quel est le type d'émotion que l'on partage ? Autrement dit, il faut soumettre les résultats obtenus par l'usage d'Internet dans l'ordre de la communication, de l'échange, de la rencontre et du partage, par le critère de l'altérité de la bonté. Ai-je réellement communiqué avec quelqu'un ? Étais-je quelqu'un communiquant avec quelqu'un ? Ou bien avons-nous dû abolir nos identités pour réussir à communiquer ? J'ai l'exemple d'un dirigeant d'entreprise comme ça qui joue aux échecs sur Internet et qui s'est aperçu au bout de 20 minutes de chat en parallèle du jeu qu'en fait, le John avec lequel il discutait, qui avait des hobbies tout à fait passionnants et tout, avait simplement 9 ans et demi. Voilà. Bon, c'est la question du pseudo. Hein. Je peux être un autre sur Internet. C'est plus difficile dans la rencontre face à face. Et donc, les deux critères, hein, c'est y a-t-il un rapport d'altérité ? Parce que sans ce rapport d'altérité, il n'y a pas de communication. Si je ne suis pas quelqu'un, je ne peux pas communiquer. Et si je ne m'adresse pas à quelqu'un, je ne communique pas non plus, au sens humain du terme. Et puis normalement, le critère d'évaluation de la qualité d'une communication, c'est sa vérité ou sa bonté. Enfin, ça ne peut pas être bon si ce n'est pas vrai, hein, mais ça peut être vrai sans être bon. Vous pouvez assassiner verbalement les autres en disant des vérités au mauvais moment, ça c'est sûr. Vous pouvez raconter à l'autre qu'elle a été trompée par son petit copain. Vous savez, sur les campus, là, ça, c'est le problème de Facebook. Quoi. Tout le monde sait, il suffit qu'il y en ait un sur un millier qui ait repéré l'autre avec... La copine de la copine, et puis tout le monde le sait dans la demi-heure qui suit, et puis c'est fini. Alors que ça pouvait être faux, qu'ils l'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Voilà, la vérité ou le vraisemblable est instantanément communiqué. Est-il bon ? Fait-il du bien, pour être plus précis ? Fait-il du bien aux personnes ou à la communauté ? Voilà, il y aurait mille choses à dire hein, là-dessus, sur toutes les limites d'abord. Hein. Alors, on doit reconnaître que, par exemple, la communication, de la même manière que Internet est capable de développer une rhétorique du vraisemblable extrêmement puissante, hein, donc on va voir que c'est très utile dans l'ordre de la créativité, mais c'est plus difficile dans l'ordre du vrai. De la même manière, étonnamment, Internet, il faut le reconnaître, le mail, le tweet, le Facebook, tous ces moyens-là, ça a commencé par le téléphone d'ailleurs, parce qu'ils ont une composante affective majeure, permettent dans certains cas de libérer la communication. Il oui, faut le voir aussi dans l'autre sens. Et donc, la question est de savoir cette libération de la communication par cette composante affective extrêmement présente dans ces outils, comment est positivement récupérer cette libération de la communication. Comprenez bien, si à un moment, tout d'un coup, vous avez bu un petit verre de trop, vous êtes dans un état euphorique parce qu'il y a une espèce de super ambiance et vous vous mettez à dire plein de choses que vous n'avez jamais dites. Libération de la communication. Là-dedans, il faut gérer après. Parce que vous avez pu dire des choses merveilleuses et des choses horribles, des choses dont, d'ailleurs, vous ne savez même pas quoi faire parce que vous n'aviez même pas que vous le pensiez. C'est vrai, ça... Qu'est-ce que vous faites après ? C'est un peu ça, cet outil. C'est un outil, c'est un désinhibiteur, si vous voulez. La désinhibition de la communication, ça peut avoir des effets positifs énormes. D'accord ? Ça peut permettre tout simplement de se mettre à se dire à soi-même des choses qu'on n'avait jamais réussi à se dire et qui font partie de notre vie. On s'aperçoit tout d'un coup, effectivement, il y a telle chose qu'on ne supporte absolument pas, mais comme on nous a éduqués à ne jamais rien dire, on a toujours renfermé ça. Et le fait qu'on ne supporte pas telle chose, ça révèle tel problème, et du coup, ça me libère parce que je vois bien que, bah oui... Si je suis comme ça, c'est parce qu'à tel moment de ma vie, il y a eu ça. Voilà. Libération par la compréhension de quelque chose d'essentiel dans le parcours de mon existence. Hein, donc, la désinhibition de la communication, pour une culture française du non-dit, du renfermement de la parole et tout ce qu'on voudra avec tous les traumatismes que ça a créé, ça a des effets positifs. Mais désinhiber, ça ne suffit pas. Après ça, je fais quoi avec tout ce qui est sorti ? Voilà. Autrement dit, le délire verbal n'est pas durablement constructif. Personnel ou collectif. Parce qu'il donne lieu du coup à de la projection, puis à de la violence, puis à de la perte d'identité, d'accord ? Et à de l'ivresse dans la perte d'identité collective. C'est comme une rêve partie. Hein, ça a les mêmes effets. On peut être dans le même état qu'à la sortie d'une rêve partie uniquement par Internet sans avoir rien fumé ou rien bu. Ça a les mêmes effets hypnotiques. Voilà. Mais positivement, ça désinhibe aussi. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, le troisième domaine, donc ça, c'est le domaine, je vous dis, de la communication, de l'échange, de la rencontre. Bon, je ne détaille pas toute l'extraordinaire efficacité d'Internet dans tout le domaine technologique, scientifique, économique, industriel. Ça, je n'ai même pas besoin d'en parler. Là, c'est extrêmement efficace. Il n'y a qu'un domaine dans lequel ça commence à poser problème, c'est la finance. Parce que le degré de réactivité est tel que les intelligences humaines n'arrivent plus à suivre. Donc, si vous voulez, c'est pas facile quand l'ordinateur décide à votre place et que vous n'arrivez pas à suivre la rapidité des décisions. Enfin, il décide rien, d'ailleurs. Hein. Mais il calcule. Mais à la fin, il peut décider. C'est-à-dire que le calcul, vous pouvez vous débrouiller pour programmer votre machine qui fait que le calcul déclenche un effet réel, exactement comme un avertisseur d'incendie. Okay, un certain taux de fumée ou de chaleur, il y a une sirène qui se met en marche. Vous n'avez rien fait. Il y a une décision qui s'est prise. Il y a un changement de niveau de phénomène. Hein, d'accord, il y a quelque chose qui est mis en marche, on va dire ça comme ça. Et donc, ça, là, Internet est absolument remarquable. Pour gérer la mise en marche de processus matériels extraordinairement complexes à l'autre bout du monde, de manière simultanée et coordonnée, on ne fera pas mieux. Donc là-dessus, la coordination des processus matériels est génialement réalisée par cet outil. Encore faut-il que l'humain arrive à suivre l'accélération de la mise en œuvre de ces processus. Et on en est là-dedans. Si le système économico-technologico-social dans lequel nous sommes, puisque tout ça se tient, se met à vivre au rythme, comprenez bien, entre guillemets, des décisions prises par les ordinateurs, nous devrons courir de plus en plus vite. Que nous vivons déjà à essayer de rattraper les outils à cause de leur vitesse. Vous avez appuyé sur un bouton et vous avez envoyé des stupidités à 100 000 personnes. Vous savez, c'est l'histoire de Philippe Néry. Vous ne pouvez pas rattraper les plumes de la poule. Là, la médisance, elle est faite, quoi. Et donc, il y a un problème là de rapidité, d'accélération. Je vous rappelle que c'est un outil qui fonctionne quasiment à la vitesse de la lumière. La DSL nous le rendant plus sensible. Donc la rapidité, ça peut être remarquable quand on est dans le devoir d'intervention urgente. Hein, et l'un des domaines où Internet et l'ordinateur et l'informatique sont fabuleux, c'est tout ce qui est du domaine de l'urgence. Mais bizarrement, l'accélération crée des urgences qui n'existaient pas. Donc il faut soigner des urgences qu'on a créées par la vitesse, créées par les outils. Enfin, vous voyez, parce que ça crée des accidents physiques, mais aussi des accidents psychiques. Des accidents physiques, ça s'appelle la non-gestion... La difficulté des humains à suivre ce que l'ordinateur peut faire dans la gestion d'un trafic ferroviaire, par exemple. Hein, vous avez de plus en plus de trains, vous avez de plus en plus d'avions, donc statistiquement, vous avez probabilité d'accident de plus en plus élevée. Et donc, quel est le degré? Et puis surtout, c'est les accidents psychiques. Parce que l'accélération, par exemple, dans le domaine économique, qui est liée en partie aux outils de communication et à Internet, ben, finit par créer des bugs, des pétages de plomb, des courts-circuits intérieurs, voilà, pour lesquels Internet ne peut pas grand-chose. Enfin, si, vous pouvez toujours commander par Internet les médicaments pour soigner les effets secondaires de l'usage excessif d'Internet, bien sûr, mais il y a une vraie question là. Hein. Comment évaluer les effets secondaires destructeurs? Enfin, quels sont les bénéfices? Oui, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice à la fin? Est-ce que le bilan est globalement positif? Troisième grand domaine de résultats. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer les domaines d'évaluation différentes. La créativité. Alors, je vous l'ai dit, il y a l'utilité dans l'ordre de l'utilité pure, c'est extraordinaire. Dans l'ordre de la beauté, là, j'en viens à ça, à la créativité. Il y a une forme de créativité, on ne peut pas le nier. De la même manière que le jour où on a inventé la guitare électrique, n'en déplaise à certains, on a inventé une sonorité qui n'existait pas dans les guitares classiques. De la même manière, quand on a commencé à inventer l'image vidéo, on a inventé quelque chose qui n'existait pas, qui était autre chose que le cinéma. Le cinéma étant autre chose que la photo, et la photo étant autre chose que la peinture. C'est évident qu'aujourd'hui, l'usage d'Internet permet la création d'images, de sons, de connexions entre images, sons, événements et réseaux humains, qui est tout à fait nouvelle. Donc là, il y a la créativité. La question est de savoir, à la lumière en gros de l'hyper-créativité artistique telle qu'on l'a vécue au XXe siècle, hein, prenez du dadaïsme, enfin du pointillisme de Seurat, en passant par le dadaïsme jusqu'aux années 70, jusqu'aux musiques électroniques et à la techno, voilà. Prenez tout ça et demandez-vous, voilà, est-ce que Internet là-dessus c'est le next step, l'étape suivante? Et de quel type de créativité? Alors, la créativité n'a pas besoin d'être utile, mais il faut qu'elle soit belle. Et une beauté qui est pas d'une certaine manière au service de quelque chose dans l'homme, est-ce que c'est vraiment encore une beauté? Une beauté où vous êtes juste saoul à la sortie, mais il ne s'est rien passé qui vous structure. Une vraie beauté, c'est quelque chose qui vous apporte, vous voyez, pas simplement de l'ivresse, pas simplement de la distraction, pour parler comme Pascal, mais où il y a quand même de la connaissance humaine, qualitative, qui s'opère en nous. C'est ça la beauté. La beauté, c'est quand même une forme d'accès à quelque chose d'humain. Et normalement, de l'humain positif, enfin, de quelque chose qui ait du sens, on va dire. Ça peut être tragique, ça peut être douloureux, ça peut même être porté sur des choses négatives, mais il faut que ça ait du sens, il ne faut pas que ça soit purement destructeur. Et donc ça, c'est pas facile là-dessus, d'évaluer quel type de créativité est en train de faire naître cet outil. Et quelles sont dans ces créativités celles qui sont enivrantes, distrayantes et destructrices, et celles qui sont qui posent de vraies questions, qui remettent réellement en cause, qui font vraiment bouger les choses, qui font vraiment bouger les gens. D'autant plus qu'on est à peine en train, on n'est pas encore même au point sur ce qu'on a inventé dans l'entre-deux-guerres et entre l'après-deuxième guerre mondiale et aujourd'hui, hein, parce que l'art a inventé tellement de modes d'expression. Aujourd'hui, qui saurait avec certitude dire que dans l'art contemporain, telle chose est vraiment quelque chose qui fait avancer l'humain et que ça, c'est purement du caprice pulsionnel projeté sur une toile ou sur... Oui. Derrière, pour rassembler cette partie sur l'outil et cette partie sur le résultat, vous voyez bien que ça réclame de la formation. Parce que le repérage du vrai, c'est de la formation, c'est même de l'éducation. La compréhension de ce qui est bon pour l'homme, c'est de la formation. L'appréciation de la valeur de la beauté, l'évaluation des effets collatéraux négatifs d'une hyper-efficacité. Voilà, tout ça, ça demande de la formation, ça décide, ça réclame aussi, c'est toujours du côté de l'usage, d'analyser la composante politique. Parce qu'il faudra se rappeler qu'Internet est... Je ne peux pas gérer l'espace d'expansion. D'accord ? Je ne peux pas gérer... ça n'est pas un espace délimitable. Quand quelqu'un parle dans un journal, c'est délimitable. Quand quelqu'un s'adresse à la radio ou la télévision, ça l'est déjà moins. D'accord ? Mais quand c'est sur Internet, l'hypercommunicativité des informations et des images fait qu'en gros, c'est très difficile d'évaluer le champ d'impact. de ce que je dis, de ce que je fais par le moyen de, par ce moyen-là. Le cadrage politique classique, hein, par des lois, par une hiérarchisation. Je suis très impressionné, par exemple, de la perte de la hiérarchisation de la parole. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit des choses énormes et totalement fausses peut avoir un poids communicationnel beaucoup plus fort du jour au lendemain que le président de la République, enfin le président des États-Unis ou le Premier ministre anglais. D'accord. Il y a encore 50 ans, il y avait une hiérarchisation de la parole. Quand le représentant d'un État parlait, sa parole était considérée comme ayant un poids symbolique plus important que le dernier comique troupier local racontant des âneries. Et donc là, il y a une vraie difficulté. La libéralisation ou la désinhibition de la parole et de la communication pose des problèmes politiques, quoi. Parce que si la démocratie, c'est l'anarchie verbale, ça ne fait pas une démocratie, ça. Et évidemment, ça implique aussi une formation familiale. Alors j'en viens maintenant, évidemment, à l'utilisateur, qui est comment réussir à gérer la compréhension que nous avons de cet outil, en sachant qu'elle grandit sans cesse, cette compréhension, et les limites inévitables et structurelles de cette compréhension. Et puis comment, dans chacun de ces trois domaines, voilà, comment je réussir à distinguer où est-ce que je me situe quant aux usages que je veux faire de cet outil, et quant aux limites que je dois m'assigner quant à l'usage de cet outil. Alors, pour moi, ça implique trois choses. D'abord, de l'ancrage, je vais revenir, du réancrage, et puis un discernement sur les opportunités que je situerai directement au niveau chrétien. D'abord l'ancrage. Plus un outil est puissant, plus il est puissant, multiforme, fascinant et palliatif, tout ça à la fois. Puissant, hein, c'est-à-dire qu'il a une capacité d'impact énorme. Multiforme, c'est-à-dire que le multi-usage. C'est-à-dire qu'il a une polyvalence d'utilisation extrême. Fascinant, parce qu'il y a de la beauté dedans, il y a du plaisir, il y a du désir. Et palliatif, c'est-à-dire qu'il peut, c'est un outil qui peut m'éviter d'être, quoi. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça. Qui peut avoir des effets analogues à la drogue ou l'alcool, ou à la, enfin, qui peut me distraire de ma propre existence, hein, ce que j'appelle palliatif. Et plus évidemment, il s'agit que je le mette à la fois à distance de moi-même, c'est-à-dire que je me distingue de lui, pour qu'il ne prenne pas le dessus sur moi, pour être simple. Et là, c'est la première fois qu'on a une vraie question. Si quand vous lisez, vous regardez les temps modernes de Charlie Chaplin, vous vous demandez si la machine ne risque pas de prendre le dessus sur l'humain, même si la leçon du film, c'est qu'à la fin, quand même, l'humain s'en sort, parce que c'est Charlie Chaplin. Aujourd'hui, c'est une question qui est beaucoup plus réelle. Aujourd'hui, le système économique se sert de vous bien plus qu'il vous sert, ça tout le monde le sait. Hein, la consommation, vous la servez bien plus qu'elle ne vous sert. Hein, la moitié de ce que vous achetez ne vous sert à rien. Par contre, ça sert à faire fonctionner le système. Vous encombre même, vous angoisse. Hein. C'est pour ça qu'il faut inventer mille manières de vous proposer la réutilisation déculpabilisante des choses qui ne vous servent à rien. C'est très compliqué, hein, dans un monde dans lequel la base, c'est que de toute façon, on a trop, et qu'on aura de plus en plus trop, et qu'il faut gérer le fait d'avoir trop, puisque c'est nécessaire pour que ça continue à marcher. Depuis très longtemps, enfin depuis, ça fait maintenant presque 30 ans, que la consommation, en tout cas dans un pays comme la France, ne porte plus sur ce qui est nécessaire. Elle a depuis longtemps dépassé le superflu, et le superflu du superflu, on est dans l'hyperflu, si vous voulez. Et donc, Internet est là-dedans. C'est-à-dire que la question est de savoir quelle distance j'ai par rapport à lui. Surtout si c'est une prothèse cérébrale. C'est-à-dire s'il vient m'aider de plus en plus à l'intime de mes activités de connaissance, à l'intime de mes activités de rencontre et à l'intime de mes activités pratiques. Qu'il est, encore une fois, un assistant permanent d'existence. C'est vrai, moi je dis de temps en temps, le jour où on va vous proposer le matin un emploi du temps comme jamais vous seriez capable de le concevoir au bout de 20 minutes de méditation. Qui inclut... les urgences, alors c'est plus facile dans un rythme de vie monastique évidemment, mais qui inclut le dentiste chez qui vous deviez aller, le dernier film intéressant à voir, l'ordre dans lequel, selon votre énergie psychique, vous êtes capable de travailler les choses les plus importantes au début ou à la fin de la journée, enfin, qui vous propose l'emploi du temps type, qui épouse vos capacités, vos facultés, la météo du jour, voilà. et toutes les interactions avec tous vos amis sur Facebook qui, avec lesquels vous pourriez faire des choses et qui vous proposent l'emploi du temps du jour. Alors ici, évidemment, on est formé à l'antidote qui s'appelle la vie théologale, mais normalement, sans cet antidote, eh ben, on hésite. On se dit pourquoi pas, quoi. Quand on a des journées un peu compliquées. Voilà, et donc, prise de distance. Pour ça, trois dimensions dans la prise de distance. D'abord, distinguer l'efficacité du bien. C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Notamment dans la relation à l'autrui. Est-ce que je suis dans un rapport d'utilisation ou de pur plaisir, qui est analogue à l'utilisation, ou est-ce que je suis vraiment dans un rapport de personne à personne ? Hein, les trois amitiés d'Aristote, amitié de plaisir, amitié d'utilité ou amitié personnelle. C'est pas parce que ça marche et parce que c'est efficace que c'est bon. C'est pas parce que ça va plus vite que c'est bon. Peut-être que c'est urgent de perdre complètement du temps, là, dans certains cas. En tout cas, dans la relation à autrui, sûrement. Parce que la relation à autrui, c'est la dernière des choses qui se gèrent, dont l'urgence, avec rapidité et efficacité. Donc là, il y a un premier travail d'ancrage, hein, classique, mais qui vaut encore plus pour Internet que pour n'importe quel autre outil, qui est de prise de distance à l'égard de la fascination de la puissance de l'outil et de l'efficacité que ça me donne, et de la confusion facile progressivement entre le bien que pourrait faire cette efficacité, vous voyez, je peux vous dire ça, et puis, par contre, le mal immédiat que ça peut me faire. Autrement dit, nous savons que la fin ne justifie pas les moyens. Donc le bien futur ne justifie pas un mal immédiat. Au passage, d'ailleurs, distinguer aussi l'urgent et l'important. Parce qu'Internet rend plein de choses urgentes. Hein. C'est la 50e mail qu'on vous envoie en 3 jours. Il n'y a aucune urgence, c'est juste un hystérique. Mais qui a un moyen d'agression. Alors il vous envoie un SMS, un message verbal, 3 mails avec des petites lumières partout. Il se débrouille pour passer par les codes d'urgence, il vous rajoute un truc sur Facebook. Voilà. Sauf que ça n'a, c'est juste quelqu'un d'hystérique, il n'y a aucun contenu. C'est juste pour vous demander si vous avez préféré, je ne sais pas trop quoi, moi, tel film ou tel film. Et donc, c'est, là encore, les outils de pression par la communication rendent nécessaire la distanciation quant à la différence entre l'urgent et le bon. Deuxième niveau d'ancrage nécessaire à l'usage de n'importe quel outil, mais a fortiori d'Internet. Je vous le disais, mais je ne vais pas le développer, le sens du vrai. C'est à distinguer mon intelligence, mon imagination et ma raison. L'intelligence, c'est ce qui se nourrit du vrai et du réel. C'est ce qui s'éveille dans le regard d'un enfant au bout de quelques semaines, même des fois quelques jours. C'est d'ailleurs ce qui fait que les yeux d'un enfant, dès qu'il est né, c'est déjà l'intelligence, boit tout ce qu'il voit. La raison, on le sait, ça peut être pas toujours intelligent. C'est des gens qui raisonnent à l'infini, ils ont complètement décollé du réel. Et l'imagination, ça peut délirer carrément par rapport à la raison. Alors évidemment, le but, c'est qu'il y ait en synergie intelligence, raison et imagination. Mais nous savons que c'est pas toujours le cas et que le monde dans lequel nous sommes a plutôt tendance à les découpler et à nous faire confondre la raison et l'intelligence, voire l'imagination et la raison. Donc ça veut dire quoi ? C'est pas parce que intuitivement ça me semble bien que un c'est raisonnable et qu'en plus c'est vrai. D'accord ? Ça fait tilt et alors ? Ça veut rien dire que ça fait tilt. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut pas dire que c'est raisonnable. Ça veut pas dire que c'est cohérent. Ça veut juste dire que ça fait tilt. Donc évidemment distinguer là aussi le vraisemblable, le rationalisable et puis le vrai, c'est-à-dire ce qui est vraiment quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Donc il faut arrêter d'appeler les gens amis sur Facebook, par exemple. Parce qu'on n'est pas dans l'ordre du vrai, là. On est dans l'ordre de l'imagination. Comment vous voulez que quelqu'un soit ami que vous n'avez jamais rencontré ? C'est juste une équivocité de langage. Donc c'est purement imaginatif. Les amis de mes amis ne sont pas mes amis, ça se saurait. Regardez au moment où les gens se marient, ils ont plein de leurs amis qui disparaissent, ce qui montre bien que leurs amis de leurs amis ne sont pas leurs amis. Même chose quand on rentre dans la vie religieuse, d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul cas où c'est vrai, c'est Jésus, heureusement ou malheureusement, c'est que les amis de Jésus doivent devenir les miens. Dans certains cas, je préférais que j'y sois pas obligé. Deuxièmement, donc, même chose, vous voyez, se réancrage dans le sens du beau. Distinguer le beau du séduisant. Là encore, c'est des choses élémentaires, hein, mais c'est plus nécessaire que jamais. Il y a un lien entre le séduisant et le vraisemblable. En vous rappelant que le monde de la consommation nous éduque en permanence à confondre le séduisant et le vraisemblable avec le bon et le vrai. C'est comme ça. Et Internet, évidemment, en rajoute une couche. Troisième niveau, plus approfondi, qui est la connaissance du bien. Bien sûr, distinguer le bien du plaisir. Mais de voir que que ce que m'apporte Internet, c'est quand même d'abord de m'installer dans un monde parallèle, qui n'est ni dans le bien ni dans le mal. C'est ce qu'il a d'ivresse. Je pense que Matrix n'est pas un film de science-fiction, c'est un film maintenant de rétro-fiction, parce que s'il est déjà dépassé, aujourd'hui, pour passer dans Internet, on n'a pas besoin d'un plug, il suffit d'être sous Wi-Fi, donc il n'y a pas besoin de se connecter physiquement. Et ça décrit extrêmement bien la réalité du deuxième monde que nous venons de fabriquer. Donc Internet est clairement pas, c'est pas seulement un continent, c'est un deuxième monde. Parce que c'est un deuxième espace-temps. Dire que c'est un continent, c'est pas tout à fait juste, parce qu'un continent, c'est dans le même espace-temps que les autres continents. D'accord ? Là, c'est plutôt... on est dans un autre espace-temps, puisqu'il fonctionne à la vitesse de la lumière et qui vous connecte potentiellement instantanément partout. Ça, c'est pas l'espace-temps normal, ça. Et la question est de savoir quelle est la part où vous passez, où vous investissez dans ce deuxième monde, et la part où vous restez dans le monde physique. Donc on pourrait dire que c'est une utopie nouvelle. Alors, je vais sauter sur le réancrage, je vous les énonce juste. Les réancrages, c'est-à-dire les choses qui sont spécifiques à Internet. Le réancrage dans l'identité, sur l'ici et le maintenant, précisément parce que ça me met ailleurs et dans un autre temps. Le réancrage dans le sens de la communion, dans le sens de la rencontre. Qu'est-ce que la proximité ? Qu'est-ce que l'intimité ? Qu'est-ce que la communion ? À la différence du sentiment de fusion. Quelque chose d'aussi extrêmement important, c'est le sens du temps humain. Internet me donne, disconnecte complètement du passé. Et donc je mettais la tradition. Qu'est-ce que c'est qu'une tradition humaine ? Qu'est-ce que c'est que la compréhension s'appuyant sur ceux qui ont compris avant ? La transmission de la compréhension, pour appeler ça l'initiation ou l'apprentissage. Le quatrième, c'est... j'en viendrai déjà à ce qui est de l'ordre du discernement chrétien. Internet a cette capacité extraordinaire d'être dans la projection créatrice. Puisqu'elle nous fait vivre un autre type de monde. Qu'est-ce qui, dans les projections créatrices que nous vivons sur Internet, sont signes d'authentiques désirs humains et donc manifestent un désir d'espérance ? Quelles sont, dans ces projections créatrices, les nostalgies angéliques et régressives ? Je pense que c'est à la lumière de l'Apocalypse qu'il faut ultimement comprendre Internet. Parce que c'est un lieu d'opportunités positives extraordinaires, d'annonces, de témoignages, de coopération dans la miséricorde, d'attente, de désir, d'espérance, et même d'une certaine manière d'anticipation de l'unité de la famille humaine réconciliée à laquelle nous sommes appelés. Potentiellement, ça s'oriente vers ça. Ça pourrait s'orienter vers ça, et en même temps, c'est orienté simultanément exactement vers son inverse. C'est un outil qui s'oriente aussi bien vers la Jérusalem céleste que vers la grande prostituée Babylone. Les deux. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'il a une puissance de fédération comme une puissance de destruction, une puissance d'aide à la compréhension de soi comme une puissance d'une aide à la perte d'identité, puissance de service d'autrui comme une puissance de narcissisme orgueilleux blessé. Voilà. Un facilitateur d'accès au réel, parce que Internet peut m'aider à sélectionner ce qui est vraiment bon pour moi, comme un accélérateur de l'angoisse et de la perte du sens de tout bien. Et le dernier élément, c'est que je pense que le seul remède radical à Internet, ça s'appelle l'Eucharistie. Pourquoi ? Parce que Internet est un outil audiovisuel qui fait semblant de la présence alors qu'il n'y a que de l'absence. Il n'y a rien, personne dans la pièce. Il n'y a personne dans la pièce. Vous êtes seul avec une machine qui vous fascine audiovisuellement. Et donc derrière l'apparence de la présence, il n'y a, en tout cas quant au physiquement présent, que de l'absence. Alors que l'Eucharistie, c'est l'inverse. Derrière l'absence apparente, il n'y a que de la présence. Donc je pense qu'il n'y a que les sacrements. C'est un anti-sacrement, si vous pouvez le prendre négativement, mais on peut le dire dans l'autre sens. Il n'y a que l'ancrage dans le corps, dans le réel et dans le mystère du Christ que permet l'Eucharistie, qui puisse véritablement générer en nous les anticorps qui nous donnent instinctivement le sens de ce qui ne nous respecte pas dans l'usage de cet outil. Autrement dit, la prudence humaine ne suffit pas, c'est ça que je voudrais finir par dire. La prudence humaine est insuffisante parce que le degré d'efficacité et de fascination et donc d'utilité de cet outil est tel que ce qui nous promet potentiellement nous enivre, et que seule une espérance ancrée dans l'apprentissage de la présence ultime à laquelle on est appelé, qui est la présence du corps du Christ, peut réellement inscrire en nous, je vous dis, les réflexes surnaturels qui nous font clairement pressentir, avec l'aide de l'Esprit-Saint, les endroits où chacun de nous peut aller, ne pas aller, parce qu'à la fin, il s'agit quand même d'une singularisation de l'usage. Chacun n'a pas... Les fragilités qu'il traverse ne sont pas les mêmes. Vous avez des gens qui sont capables de chatter, vous en avez, ils vont y passer, ils vont perdre du temps avec ça, vous en avez qui sont capables de supporter certaines images, d'autres pas, vous en avez qui sont... Voilà. L'addiction... étant donné ce qui est proposé, guette tout le monde, puisqu'il y a de toute façon l'un ou l'autre produit qui vous est proposé là-dessus qui finira par vous séduire. Et donc, pour rester soi-même, nous avons besoin que l'intériorité en nous se surdéveloppe, au sens de surnaturel. Parce que l'extériorité fascinante qu'Internet nous promet de coopérer à construire risque de nous faire quitter notre âme, quoi. Ça veut dire d'ailleurs qu'on ne peut pas, à mon avis, dans l'Église, s'aventurer dans ce continent ou ce deuxième espace-temps si on n'est pas enchaîné les uns aux autres, encordé, si vous voulez. Je pense que quelqu'un qui pense s'aventurer là-dedans tout seul, il est mort d'avance, spirituellement. Hein. Je pense qu'on ne peut, parce que là encore, je pense que personne n'a les capacités personnelles suffisamment, par lui-même, seul, pour réussir à résister à tous les chants des sirènes. Je pense qu'il faut y aller ensemble. C'est pour ça qu'il faut, évidemment exclure complètement Internet d'une cellule monastique ou d'une cellule de séminariste. Il faut même l'exclure d'une chambre d'un jeune, c'est évident, c'est même pas discutable ça. Il faut mettre Internet dans un espace public. Vous pouvez inventer tous les codes de sécurisation que vous voudrez. La génération qui sait exactement par où il faut passer. Voilà. On n'a pas encore aujourd'hui de codage absolu des contenus. Puis ça veut rien dire parce que on est dans l'ambiguïté permanente. Donc il se situe où les contenus ? Voilà. Et donc concrètement, c'est pour ça que quand je parle de, il faut être encordé les uns aux autres. C'est que l'aide d'autrui dans l'espace familial, dans l'espace communautaire, et l'ouverture du cœur clair là-dessus est d'une nécessité absolue. On peut perdre complètement son temps, être complètement à côté de la plaque, à consulter des heures zénith par jour. Ça peut être des choses pieuses. Vous pouvez collectionner les prières pieuses, les informations à l'infini sur la future béatification de Jean-Paul II. C'est pas plus sain que si vous regardiez les grands prix de Formule 1 ou des choses beaucoup plus malsaines. Parce que vous perdez complètement votre temps. On me dit oui, mais le contenu est sain. Non, on sait bien que la dévotion compulsive, ça fait partie des pathologies graves. Ben voilà. Non, c'est pour vous dire qu'il faut se méfier. Vous voyez, Internet vous propose, parce que c'est un outil qui vous propose simultanément toutes les justifications à l'usage qu'il voudrait bien que vous fassiez de lui. C'est un déculpabilisateur extraordinaire. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais juste de savoir, encore une fois, je pense que ce n'est pas possible d'aborder ça seul. Donc les pères de famille doivent en parler avec leur épouse, voire leurs enfants. Les frères et sœurs doivent en parler entre eux. Enfin bref, il faut être capable d'en parler et de reconnaître que c'est un lieu qui mène nécessairement chez chacun quelque chose à vif de sa fragilité. Étant donné le champ de votre personnalité qu'il couvre, c'est-à-dire quasiment tout. À part votre vie théologale. Pardon, j'ai dépassé.
Un grand merci pour cet exposé stimulant dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses, très denses, très intéressants et très vivants aussi. Je crois qu'on aura plaisir à vous relire et pouvoir comme ça prendre à la fois ce que vous avez laissé et puis déjà ce que vous nous avez donné. Un très grand merci donc.